on représentait quand même, je dis n'importe quoi, 42% des Marseillais. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème. Deuxièmement, je considère aujourd'hui, et c'est pour ça que les associations citoyennes ont leur rôle, et de plus en plus, c'est que lorsqu'arrivent les délibérations, il y en a de tout type, on n'a pas la science infuse. En tant qu'élu, il faut être modeste, humble. Nous n'avons pas la science infuse. Nous sommes là pour présenter un vote. Mais ce vote, il ne peut se faire qu'avec, justement, le prisme des compétences d'experts, de gens de terrain, etc. Et c'est l'idée que j'ai eue en mettant en place Innovons pour Marseille Métropole, où on allait voir les acteurs ou les experts pour éclairer les élus dans leur, dans leur vote. Et c'est ça qui me paraît important. Donc les élus, bien sûr, mais pas les élus seuls. Les élus qui savent retourner voir leurs électeurs ou les experts pour pouvoir faire un vote utile.
Justement, est-ce que vous pensez que votre liberté de parole que vous avez là, vous avez dit que Marseille était l'une des villes, peut-être la ville la plus polluée de France, est-ce que vous n'auriez pas pu dire si vous aviez été élu ?
Pas du tout.
Votre liberté de parole est plus importante en tant que présidente d'une association ?
Alors, permettez-moi de vous dire que un élu, ça a du pouvoir.
Oui, mais souvent, sa parole, elle est régie par le chef du parti.
Bah, écoutez, je crois que peut-être que parce que je ne suis pas un élément d'un parti politique réel, ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir porter cette parole. Vous parlez de la pollution. J'ai beaucoup œuvré au niveau du conseil municipal en tant qu'élu pour interpeller les ministères, pour interpeller le préfet, pour interpeller les décideurs sans limite. Néanmoins, concernant la pollution, et la ville de Lille est tout à fait dans la même problématique que la ville de Marseille, c'est-à-dire avec une pollution des sols, une pollution de l'air, une pollution professionnelle, il est essentiel que le réseau associatif soit très fort. Parce qu'un élu, s'il n'a pas des associations fortes derrière lui, il n'est pas capable de porter aucune des paroles. Donc, dans le cadre d'I2M, l'objectif était de renforcer les associations. Plusieurs collectifs se battaient pour la santé environnementale. Je leur ai demandé de passer en statut associatif, avec un vrai cadre. Pourquoi ? Parce que dans cette triptyque santé environnementale, puisque c'est un sujet qui intéresse aussi Lille, il est essentiel que les associations se coordonnent. Parce que, en effet, et vous avez tout à fait raison, un élu doit s'appuyer sur un tissu associatif qui connaît, qui est expert dans des domaines et qui peuvent, de fait, l'élu peut aider à la médiatisation d'un certain nombre de dossiers qu'il juge important, et les associations peuvent aller aussi jusqu'à la justice, parce que souvent le triptyque est le même, c'est association, citoyenneté organisée, un élu qui va médiatiser, qui appuie la médiatisation, et une association qui amène la problématique devant la justice. L'élu peut aider à donner plus de lumière à des combats qui souvent on veut les enterrer, si l'élu est en capacité de le faire. Innovons pour Marseille Métropole Méditerranée, c'est donner cet élément pour mettre en lumière des problématiques qu'elles pensent être valables pour un combat politique réel au niveau d'une ville, d'un territoire.
Pour terminer, quelles sont vos attentes par rapport à ce sommet citoyen ?
I2M, Innovant pour Marseille Métropole, est une des associations fondatrices de Idéal Citoyen. Elle a vu grandir, elle a vu germer ces sommets. Je rappelle de façon humble que les deux derniers sommets se sont passés à Marseille, puisque les premiers sommets ont été organisés un peu dans la ville mère de cette idée. Le sommet à Lille, personnellement, j'en suis ravie, parce que ça montre que nous sommes capables aussi de transposer dans une ville presque à l'opposé, mais tellement humaine et heureuse, un peu à l'image de Marseille. Je retrouve la chaleur humaine et la chaleur aussi de ce beau soleil qu'on a, montre que c'est un modèle qu'on peut transposer dans toutes les villes de France. Je suis aussi cofondatrice d'une autre think tank qui est devenue une association qui s'appelle Idialogos. J'espère que vous les avez interviewés ou que vous allez le faire.
Tout à l'heure.
Qui, elle, et donc en tant que cofondatrice aussi d'Idialogos, je suis ravie qu'à Lille, on ait fait rencontrer finalement le corollaire de Idéal Citoyen, mais dans l'international. Et donc aujourd'hui, je trouve que Lille, pour ma part, le moment où les mouvements citoyens internationaux et les mouvements citoyens nationaux ont vraiment se sont rencontrés. Et Lille restera pour moi justement cette dimension internationale qu'on donne à ce mouvement citoyen qu'on essaye de faire vivre au mieux.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages, Annie Levy-Mozic. Conatsi de Innovons pour Marseille Métropole Méditerranée qui est donc venu s'exprimer au micro des radios associatives en Hauts-de-France. Merci à vous.
Merci à vous.
Vivez le marathon des idées citoyennes en direct sur vos radios associatives en Hauts-de-France. 11h06 sur vos radios associatives en Hauts-de-France et à présent nous accueillons Pierrick Courillot, bonjour.
Bonjour et merci de votre invitation.
De Handicap, République et Société, un think tank là aussi pour faire bouger les choses. Quelques mots pour nous présenter Handicap, République et Société.
Nous sommes une équipe qui s'est constituée à la suite de la crise sanitaire Covid-19, considérant que la crise sanitaire que nous avons collectivement traversée a fragilisé la place des personnes en situation de handicap dans la société française. Et donc, il nous paraissait important de pouvoir apporter des réponses nouvelles avec une expertise construite par, pour et avec les personnes en situation de handicap, les aidants qui les accompagnent et un certain nombre d'acteurs, y compris d'anciens conseillers ministériels, afin de pouvoir proposer une plateforme à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle de 2022 d'abord, puis les législatives.
Voilà, donc pour effectivement qu'il y ait plus de représentativité
Et surtout que nous allions vers une accessibilité réelle, puisqu'aujourd'hui, un Français sur 6 est en situation de handicap, et 20 ans après la vote de la loi
de 2005,
pour la participation, l'égalité des chances et la citoyenneté des personnes handicapées, un établissement recevant du public sur 2 n'est toujours pas accessible. Donc on a un retard qui est quand même très conséquent. Et les personnes en situation de handicap demeurent 2 fois plus exposées au chômage que la population générale. Sont-elles pour autant 2 fois moins compétentes ? Je ne le crois pas.
Et non, on a entendu effectivement tout à l'heure avec notamment Papillon de Jour qui était à votre place il y a quelques minutes. Alors, dans vos revendications, vous soulignez notamment l'enfer administratif que subissent les personnes en situation de handicap. Expliquez-nous.
Eh bien, il y a aujourd'hui un guichet unique administratif qui s'appelle les maisons départementales des personnes handicapées,
oui,
et qui permet d'obtenir un certain nombre d'allocations, de financements, d'accompagnement technique et humain. Toutefois, les délais de ces démarches demeurent extrêmement importants. Jusqu'à plus d'un an dans certains départements, ce qui n'est pas acceptable aujourd'hui. En parallèle, certains de nos concitoyens qui sont obligés de justifier à des intervalles parfois relativement courts de situations qui n'évoluent pas, ne seront pas amenées à évoluer. Ne nécessiterait pas de réexamen.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Vous dites de justifier, mais aussi c'est souvent de re-justifier.
Oui. Mmh. Oui.
Vous étiez très jeune quand il y a eu cette loi sur le handicap en 2025, et on a toujours tendance à parler, on l'a fait tout à l'heure avec...
2005 Thierry.
2005, pardon. Voilà, il manque un café. Avec Katia Dayan, on a parlé des situations, la mobilité à Paris, mais aussi dans les grandes villes. Là, vous venez nous parler des problèmes administratifs. Mais sur ces 20 ans-là, est-ce qu'il y a eu des avancées ? Parce qu'on a toujours tendance à voir ce côté noir, mais on parle très peu des avancées.
Alors, si on regarde les avancées, à en retenir. D'abord, la loi de 2005 a acté, techniquement... l'obligation d'accessibilité, ce qui n'existait pas auparavant. Elle a acté le principe de compensation du handicap, que ce soit en matière des techniques humaines, de transport, tout ça n'existait pas auparavant. Sur l'éducation, on avance aussi, puisque il y a eu depuis 2017 une très forte croissance du nombre d'enfants scolarisés.
Non accompagnés.
Mais par contre, on a un sujet sur, d'une part, l'accompagnement qui n'est pas effectif, et l'arbre qui cache la forêt aujourd'hui, c'est le fait que cette scolarité ne tient pas compte, à date, de la réelle capacité d'avoir une trajectoire de construction de parcours professionnel. On ne valide pas aujourd'hui sérieusement la question des acquis pédagogiques des jeunes en situation de handicap. On a tendance, de manière très marquée, à les faire passer de classe en classe sans valider les acquis, ce qui veut dire que derrière, ça va pénaliser leur insertion. Et donc, il nous reste un vrai travail à faire sur à la fois l'accessibilité et la validation des connaissances pédagogiques, et de l'autre côté, la coopération de l'éducation nationale avec les professionnels de leur éducation et du médico-social pour que les contraintes induites par le handicap n'empêchent pas cette scolarité.
D'accord. Mais c'est juste une question de moyens, parce que l'éducation nationale perd des moyens d'année en année. Et quand on sait, par exemple, dans une ville pas très loin de notre radio, où il y a eu un seul AESH pour 5 élèves dans une classe, c'est une question de moyens.
Il y a à la fois des enjeux de moyens et d'organisation.
D'ailleurs, il y a un chiffre qui circule au niveau de l'accompagnement sur la santé, sur le plan de la santé des élèves. 800 médecins, 7800 infirmiers pour 12 millions d'élèves. Donc forcément...
C'est d'actualité, une infirmière pour 1500 élèves, une psychologue pour 1700 élèves.
Et alors c'est vrai que vous posez la question, Pierrick Courrieux, de cette mise en lumière de la nécessité de proposer des parcours professionnels pour les jeunes. Est-ce que vous pensez que justement il n'y a pas suffisamment d'implication dans la manière de faire l'orientation notamment parce qu'on pourrait tout à fait faire en sorte que cette orientation pour les élèves en situation de handicap soit améliorée.
Alors on a effectivement, et je vous rejoins, un enjeu de construction précoce de l'orientation des jeunes en situation de handicap, ça c'est certain. Quand on regarde les initiatives territoriales du côté d'Anteuil dans le Doubs, vous avez par exemple Action Philippe Strait qui a construit un lieu mêlant à la fois entreprise adaptée pour permettre la réinsertion professionnelle après un incident de parcours lié au handicap, plateau de rééducation et logement. Et donc, on a réussi dans ce territoire, pourtant en ruralité, à construire une expérimentation qui est une vraie passerelle pour des personnes en situation de handicap. Nos collègues des Papillons de jour qui co-organisent avec nous ce sommet sont très engagés aussi sur la capacité après un handicap qui survient, à construire un remont professionnel et à aller vers un emploi en milieu ordinaire. Mais aujourd'hui, ces initiatives restent très localisées.
Donc vous appelez à leur développement, à ce que cet exemple se soit un petit peu recopié partout.
Excusez-moi, j'irai un peu plus loin. Est-ce qu'il ne faudrait pas légiférer? Parce que quand on construit une entreprise, quand on construit un bâtiment pour accueillir des travailleurs, il y a des normes environnementales et on doit les suivre, c'est obligatoire. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement légiférer, pour poursuivre la question de Jean-Philippe, et d'imposer que tout nouveau bâtiment soit accessible aux personnes en situation de handicap?
Aujourd'hui, c'est prévu. La difficulté, c'est d'une part effectivement l'application, mais toutefois, aujourd'hui, ces normes sont tellement complexes qu'elles ne sont pas applicables sur le terrain. Donc on se ment tous collectivement, il faut que citoyens, parlementaires, associations pouvoir public se remettre autour de la table pour qu'on passe d'une accessibilité normative à une accessibilité de l'usage. C'est un impératif dans le contexte de vieillissement de la population de toute façon. Et au-delà de ça, nous, avec Handicap République et Société, nous avons porté la création d'un crédit d'impôt d'accessibilité pour les TPE, PME, commerçants, artisans, parce que il n'est pas aujourd'hui normal on vous met un pistolet sur la tempe pour rendre accessible votre commerce ou votre entreprise, et que de l'autre côté, vous ne soyez pas soutenu dans les démarches. Pourtant, quand vous rendez accessible un lieu, c'est de l'emploi non délocalisable dans un territoire. Et donc, un réel impact économique derrière.
Et leur tour, malheureusement, on aurait bien effectivement prolongé cette discussion avec vous, Pierrick Corillo. Dernière question peut-être, qu'est-ce que vous attendez justement de ce sommet citoyen, vous, aujourd'hui ?
J'en attends deux choses. Il y a une proposition de loi transpartisane qui va arriver en discussion au Parlement dans les mois qui viennent. Il faut que collectivement le sommet citoyen soit associé à ces travaux, et donc je demande à ce que nous soyons collectivement reçus à la fois par les parlementaires, l'ensemble des groupes politiques quels qu'ils soient, et les ministres en charge. Et au-delà de ça, il faut effectivement que nous puissions, dans le cadre des élections municipales qui arrivent, recenser dans le cadre de ce sommet aussi les initiatives territorial qui fonctionne.
Et ce sera le mot de la fin en tous les cas pour ce sujet.
Merci beaucoup Pierrick Corillo de Handicap République et Société d'avoir été avec nous.
Merci pour votre invitation.
Le sommet citoyen du G500, ça se passe à Lille et c'est à vivre en direct sur vos radios associatives en Hauts-de-France. Et nous sommes toujours en direct de Lille, depuis le garage, boulevard Carnot, à l'occasion de ce sommet citoyen du G500. On va parler de justice à présent avec Jérôme Poza. Bonjour. Alors, vous êtes magistrat, vous êtes premier vice-président en charge de l'application des peines au tribunal judiciaire de Nancy. Vous êtes également président de l'association Amour pour la justice. Alors, Amour, c'est un acronyme ici, c'est l'association des magistrats personnels usagers de justice œuvrant pour l'unité et la réforme de la justice. Cette association, elle a pour objet de rendre compte de la crise institutionnelle que traverse la justice française et de favoriser une réflexion collective et multidisciplinaire pour proposer un projet de refonte de l'organisation et du fonctionnement de notre justice judiciaire. Alors c'est vrai que justement, aux yeux du grand public et sans doute de quelques hommes politiques aussi, la justice c'est une vieille dame, toujours trop lente, jamais assez sévère, mais aussi et surtout sans moyens. Vous qui êtes magistrat au cœur du système judiciaire, quel œil vous jetez justement sur le système judiciaire français ?
Déjà, merci de me recevoir, Radio Plus. Alors, quel regard je jette sur la justice française? C'est un regard un petit peu désabusé.
Vous pouvez juste vous rapprocher du micro, s'il vous plaît.
Voilà, pardon. Alors, je savais. Ouais, des fois, il faut s'en éloigner. Des fois, non, ok. Là, ici, dans ce studio, je m'en rapproche. Un petit peu désabusé parce que, comme vous dites, c'est une vieille dame, mais qu'il faut, accompagner et lui faire prendre une petite cure de jouvence pour la rénover. Sur le terrain, je parle de désabuser parce que bon, je ne vais pas vous faire ce matin la complainte des moyens. Vous le savez tout aussi bien que moi. Simplement, sur le terrain, on est usé. Mmh. Usé parce que, effectivement, nous n'avons pas les moyens, mais c'est surtout qu'on ne peut pas rendre la justice comme les citoyens aimeraient qu'on la rende. Vous parliez effectivement de délai. Vous savez que moi, dans le tribunal à Nancy, par exemple, sur le contentieux des affaires familiales, il y a des gens qui attendent de passer devant un juge. Les délais sont entre 16 et 18 mois, ce qui est énorme. Sur les petits contentieux locatifs, on est pareil, on est au-delà de un an. Donc là, c'est la justice du quotidien donc, que les Français subissent. Et le fait qu'on soit désabusé les magistrats, c'est parce que on travaille entre 60 et 70 heures semaine. On gagne bien notre vie, certes, mais on sacrifie beaucoup de choses pour, au final, finalement, ne pas contenter le justiciable, non pas à cause de notre travail, mais parce que les pouvoirs publics nous délaissent depuis des années. Et comme vous le dites, certains politiques, même beaucoup de politiques aujourd'hui, torpillent l'institution judiciaire et lui font porter tous les maux de la société.
Alors, il y a ce constat que je partage avec vous, mais est-ce que ce n'est pas à coupler aussi à une question d'éducation ? Je m'explique, on a parfois l'impression que le grand public manque de recul. Alors, c'est surtout vrai sur les grandes affaires qui passionnent notre société, mais au-delà de la passion justement de ces affaires judiciaires et criminelles, on oublie la notion d'individualisation des peines, on oublie la nécessaire réinsertion des criminels, on oublie le temps de l'enquête qui doit permettre aussi au débat de se dérouler de manière sereine et surtout de manière complète. Est-ce que il n'y a pas un complément à apporter aussi dans ce domaine-là ?
Mais complètement, complètement. Et je suis ravi d'entendre que des journalistes comme vous soient aussi bien informés et prennent le temps de rappeler que la justice, effectivement, elle doit s'inscrire dans le cadre de grands principes. Ce que oublient souvent les politiques, les réseaux sociaux qui simplifient, caricaturent. Oui, il y a une éducation à la justice qu'il faut faire dès le plus jeune âge. On le prône dans le cadre de notre association. On va au-devant des lycées, des collèges. Et puis dans les tribunaux, on accueille de plus en plus de collégiens, d'écoles. On fait des expériences de tribunal pédagogique où on retrace une affaire en présence d'élèves, où on leur fait jouer différentes fonctions.
Il y a des médias aussi qui justement commencent à filmer hein, comment ça se passe effectivement dans les tribunaux, parce que beaucoup de citoyens, de citoyennes s'imaginent un petit peu la justice à l'américaine, alors que c'est pas, ça pas fonctionne du pas du tout comme ça, et c'est intéressant de voir également ce fonctionnement hein, dans certains médias.
Oui, c'est vrai que France Télévisions a développé ce... Alors c'est une bonne chose. Des fois, je trouve que voilà, il y a un petit décalage quand même parce que la caméra va introduire un biais. Mais en tous les cas, c'est nécessaire et je trouve que c'est une bonne initiative parce que les Français vont voir que effectivement, ça n'a rien à voir avec la justice à l'américaine ou la justice des émissions. La justice française, c'est une justice qui est difficile, qui est vraiment difficile à tenir et aujourd'hui, moi, ce qui nous choque, nous les magistrats, et c'est pour ça qu'on a fait cette association, c'est qu'on veut aller à la rencontre des citoyens pour leur expliquer exactement les coulisses de l'institution. Vous parliez de l'individualisation de la peine. Tous ces procès qui sont, jetés en pâture à l'opinion avec des biais, des commentateurs, mais jamais de magistrats sur les plateaux pour exprimer. Mais là, la justice, elle a son mea culpa à faire, c'est que nous, on ne communique pas assez. Et donc aujourd'hui, il faut aller au-devant du citoyen, communiquer, être transparent sur la façon dont ça marche et expliquer nos décisions et notre façon de travailler.
C'était la question que j'allais vous poser dans le prolongement de la question de Jean-Philippe. Vous travaillez 70 heures, alors vous avez peut-être un peu par semaine, vous n'avez peut-être pas le temps d'aller à la rencontre des journalistes et d'expliquer. Parfois, et surtout aujourd'hui, une façon de rendre la justice... qui a toujours été la même, mais aujourd'hui il y a les réseaux sociaux et les gens ne comprennent plus, il faut prendre en compte ces réseaux sociaux, les gens ne comprennent plus pourquoi un tel n'est condamné qu'à 3 mois alors que pour le même délit un autre sera condamné à 3 ans. Est-ce qu'il faut expliquer pour la raison? Vous n'avez peut-être pas le temps, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir un service de communication
si.
qui justifierait la décision prise?
Complètement,
complètement, et là je vous rejoins tout à fait, avec l'association Amont de la Justice, on plaide pour qu'il y ait un pôle de communication dans chaque tribunal. Qu'on puisse, sur des affaires qui vont être un petit peu emblématiques ou des affaires qui vont être commentées faussement sur les réseaux sociaux et qui vont être abreuvées de fake news tous les 4 matins, il faut communiquer, il faut que le juge puisse effectivement lire la motivation d'un jugement et rappeler les grands principes qui président. Alors la Cour de cassation le fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle a fait un site et sur chaque grande affaire maintenant, elle sort un communiqué où de manière assez vulgarisée et synthétique, elle rappelle les problématiques de l'affaire en question, les principes qui sont appliqués et la motivation de la peine par exemple qui a été faite. Mais il faut que ça se fasse dans chaque tribunal.
Pour expliquer les décisions, oui, mais aussi vous parliez de coulisses. Peut-être n'y a-t-il pas lieu de communiquer sur le fait qu'on peut justement, entre guillemets, visiter les coulisses, alors sans parler de portes ouvertes qui pourraient peut-être être imaginées. On va le rappeler à ceux qui ne savent peut-être pas, mais les tribunaux ouvrent leurs portes. On peut assister à des procès et pourtant il n'y a pas de communication dessus. Moi qui habite pas très loin d'ici, je ne suis incapable de savoir quand ont lieu les audiences publiques à Lille, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus, sans rentrer dans le détail de chaque procès, mais de dire, voilà, venez voir comment se passe la justice, parce que le jeudi à 9h, il y a les audiences publiques.
Ah bah oui, ça peut complètement s'entendre qu'il y ait cette communication, mais quand vous parlez tout à l'heure de vieille dame, voilà, il y a cette vieille dame avec, on va dire, un espèce de magma conservateur, et l'idée qu'on a peur de s'ouvrir aux citoyens. Les magistrats ont peur des citoyens. Sauf certains comme nous qui justement allons chercher ça, mais il y a quand même une peur ancestrale de s'ouvrir, parce que la justice, ça doit être sacré, ça doit être le temple, mais comme je dis, le magistrat est le gardien du temple, mais la justice, elle appartient aux citoyens en premier lieu, quoi. On rend la justice au nom du peuple français.
Et ce également, alors même que tout citoyen peut être amené dans sa vie à participer à un procès.
Exactement. Alors, vous avez quand même été attentif à la réforme qu'a fait Monsieur Dupond-Moretti sur la cour d'assises, en créant effectivement des cours criminelles départementales où justement le citoyen est écarté du jugement de certains crimes, ce qui est pour nous une aberration totale. C'est-à-dire on peut pas dire aujourd'hui que on veut que le citoyen ait une part active dans la justice en l'en écartant. Mais voilà, il faut absolument, et je vous rejoins tous les trois, sur le fait qu'on doit s'ouvrir, on doit communiquer sur notre office, sur comment se passe notre travail, rappeler les principes et expliquer le sens décisionnel de ce qu'on rend. Parce que sinon, le fossé va continuer à se grandir.
D'autant que votre association s'appelle Amour, par hasard peut-être, et alors qu'il y a un désamour des Français envers la justice, parce qu'on a toujours et on le voit sur les réseaux sociaux, on en tient compte, il y a toujours ce sentiment d'une justice pour les puissants et une justice pour les faibles. Quand on voit des hommes politiques qui sont condamnés mais ne sont jamais incarcérés, alors que le petit délinquant qui a volé une boîte de cassoulet dans un magasin à Tarbes, lui a été incarcéré 3 mois. Comment vous pouvez changer cette image-là ?
Il faut bien distinguer. Il y a un désamour pour la justice, pour l'institution, c'est-à-dire qu'ils ne la comprennent pas et ça reste très opaque. Mais en même temps, il y a chez le justiciable un besoin de voir le juge. Ça, c'est quand même quelque chose que moi j'éprouve au quotidien dans ma fonction de juge d'application des peines. On va dire toute la semaine, je vois et je reçois des condamnés qui sont en prison ou qui sont pas en prison, et on peut discuter de tout ça. Sur votre question, comment faire pour que expliquer ? Alors, il y a un paradoxe quand même, parce que regardez ce qui s'est fait autour du procès des assistants parlementaires du Rassemblement National. Là, il y a quand même une justice qui a condamné très sévèrement une puissante, de même qu'elle l'a fait dans les affaires avec Nicolas Sarkozy. Et regardez ce que ça génère. On condamne les puissants et on se fait critiquer parce qu'on a condamné les puissants. Vous voyez, c'est quand même assez, assez variable et assez fluctuant. Mais j'évite pas la question. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on doive rappeler le principe de l'individualisation de la peine, le principe qu'un dossier n'est jamais le même qu'un autre dossier, et que si effectivement un délinquant à Lille vole dans une boulangerie et prend 3 mois à Lille, et pourquoi il prend 6 mois à Marseille, parce que on n'est pas dans le dossier et qu'il y a peut-être des choses sur le parcours de la personne, sur son casier judiciaire, sur son profil psychologique qui vont expliquer des fois le différentiel. Mais ça, on revient toujours au nerf de la guerre, il faut l'expliquer.
Mais vous comprenez que les Français s'étonnent quand celui qui vole 3 baguettes à Lille prend 3 mois de prison et il est incarcéré, et vous l'avez dit justement, vous condamnez les puissants, mais les puissants sont toujours souvent condamnés avec sursis et ils ne sont jamais incarcérés. Vous avez nommé le Rassemblement National, l'affaire Sarkozy, il n'a pas été incarcéré, alors que le petit voleur de baguettes, lui, il est incarcéré. Vous comprenez que les Français peuvent trouver ça injuste.
Alors, je le comprends, mais... il ne faut pas se tromper de personne. C'est-à-dire, si le puissant n'est pas incarcéré, ce n'est pas la faute de la justice, c'est que les lois qui sont faites pour réprimer les atteintes aux biens, les atteintes au denier public, font en sorte que, effectivement, les peines seront globalement moins sévères que des atteintes aux personnes concernant les petits délinquants. Donc il ne faut pas forcément incriminer la justice, il faut aller incriminer nos politiques. Et nos politiques n'ont pas intérêt à faire de lois qui les répriment. Regardez un petit peu, c'est eux qui ont voté quasiment à l'unanimité l'histoire de l'inéligibilité de la personne. Et lorsqu'elle a été prononcée, regardez le tollé que ça a fait. Vous voyez, donc il y a quand même des paradoxes. C'est pas la justice là pour le coup qu'il faut incriminer. Moi, je le dis souvent, ceux qui font la loi, ceux qui portent des projets. Regardez les déclarations de Monsieur Darmanin hier, qui est quand même mon garde des sceaux et qui vous dit que il a pas de compte à rendre à la justice, il a pas forcément à être d'accord avec, et que lui il fait de la politique. Et moi je lui réponds oui, mais le juge lui il ne fait pas de politique. C'est ça la grosse différence.
Mais la question n'était pas pour incriminer la justice, c'était pour avoir.
J'ai bien compris.
On parlait tout à l'heure de pouvoir échanger avec les magistrats, peut-être aussi de manière plus globale de rendre des comptes. Il y a aussi des débats qui commencent à arriver en France sur l'élection des juges. Qu'en pensez-vous ?
Alors, je l'ai déjà dit à une autre antenne, j'en pense que du mal. L'élection des juges, si vous voulez, un juge, sa mission essentielle, en tous les cas sa vertu primordiale, c'est d'être impartial. Si vous faites élire un juge, il va devoir rendre des comptes à ceux qui les ont élus et rendre des décisions par rapport aux vœux de ceux qui les ont élus. Donc, complètement à côté de la plaque, c'est David Lisnard, futur candidat à la présidentielle, qui porte cette proposition. Je lui ai déjà dit, c'est complètement à côté de la plaque. Et en tous les cas, ça se fait dans les pays anglo-saxons, ça se fait aux États-Unis, avec les résultats que vous voyez, une justice totalement inégalitaire. On espère qu'en France, on franchira jamais ce Rubicon.
À l'inverse, on est ici au sommet citoyen. On a beaucoup entendu parler de l'importance d'impliquer les citoyens. Les citoyens sont impliqués. On a pris l'exemple du procès d'assises. Oui. Vous soulignez votre inquiétude tout à l'heure par rapport aux cours criminels départementales. Est-ce qu'on doit mettre plus de citoyens dans la justice ? Parce que la justice, c'est aussi très technique. C'est aussi des magistrats qui ont fait de longues années d'études. Est-ce qu'on doit aller vers plus de citoyens dans la justice ?
Ça a été tenté, mais il y a quand même des exemples de ce qu'on appelle l'échevinage, c'est-à-dire la participation du citoyen à côté du professionnel de justice. Vous l'avez au tribunal pour enfants. Vous avez une personne qui siège à côté du juge des enfants et qui est quelqu'un qui a exercé des métiers où l'intérêt de l'enfant est prioritaire. Vous l'avez également dans le cadre des contentieux du travail. Donc ça existe déjà. Moi, je trouve juste que il faut que le citoyen reste pour les atteintes les plus graves, on va dire, à nos principes de société, notamment la cour d'assises, l'avoir écarté du jugement des viols, l'avoir écarté du jugement des braquages, des choses qui peut et qui arrivent malheureusement souvent l'en écarter, c'est une faute terrible parce que effectivement ça va générer encore plus de suspicions sur qui rend la justice et pourquoi on nous en écarte, qui sont ces magistrats qui rendent et auxquels nous on peut pas participer à leur côté. Donc il faut vraiment je lance un vrai cri là-dessus. Enfin, on se bat pour que ça revienne, mais la cour d'assises, on doit la sanctuariser.
Dernière question, Jérôme Poza, qu'est-ce que vous attendez de ce sommet citoyen à Lille ?
toujours la même chose depuis que j'y participe, la rencontre avec les citoyens, pouvoir confronter nos propositions et justement s'imprégner de ce qu'ils nous disent. Et puis ça permet surtout aux magistrats que je suis de voir que ce qui se dit dans les médias, à savoir que apparemment tous les Français détestent la justice, lorsque vous discutez avec eux, que vous prenez le temps de parler et d'expliquer ce que vous faites, ils aiment la justice, ils sont passionnés par la justice et ils ont envie d'être à côté de leur juge.
Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Posa, magistrat et président de l'association Amour pour la justice, d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir reçu, ce fut un plaisir.
Plaisir partagé.
Et le jingle qui arrive.
Citoyens, associations et experts prennent la parole au micro de vos radios associatives en Hauts-de-France pour une démocratie vivante et participative. Le sommet citoyen, parlons enfin de ce qui compte. 11h35 sur vos radios associatives en Hauts-de-France. Nous sommes toujours en direct de Lille à l'occasion de la troisième édition du sommet citoyen du G500. On parlait de justice il y a quelques instants. Il y aura d'ailleurs une table ronde cet après-midi où vous pourrez faire vos propositions pour la justice, parce que cet événement, il se veut pleinement participatif. C'est tout l'enjeu de ce sommet citoyen, proposer justement des résolutions. Et puis, il y a aussi un village des associations. On peut rencontrer des associations qui sont présentes, et c'est le cas notamment de l'association qui s'appelle Urgence Secours Citoyen, représentée par Christelle Baldé. Bonjour.
Oui, bonjour, merci de me recevoir.
Quelques mots pour nous présenter Urgence Secours Citoyen.
Alors, Urgence Secours Citoyen, c'est une jeune association qui est née pour promouvoir les gestes qui sauvent au plus près des citoyens, en proposant aux mairies, aux maires, d'organiser des rencontres autour des gestes qui sauvent, avec des mises en pratique du massage cardiaque, l'usage du défibrillateur. Et donc, l'idée, c'est de démystifier tous ces gestes, le défibrillateur, pour augmenter le taux de survie qui, en France, le taux de survie lors d'un arrêt cardiaque. Mmh. Hein, il y a 50 000 morts par an d'arrêt cardiaque inopiné, avec seulement 7% de taux de survie, là où en Europe, on est à 20-30%. Voilà.
Formation au premier secours, et puis on me disait hors antenne aussi que vous êtes particulièrement sensible justement à la question du déploiement des défibrillateurs dans les communes et dans les lieux publics.
Oui, tout à fait. Alors, cette association, elle est née d'une rencontre avec un chef d'entreprise qui vend des défibrillateurs. Et puis évidemment, lui, c'est plutôt quelqu'un qui fait du business. Et puis quand on s'est rencontrés, moi je suis infirmière anesthésiste de formation, toujours en activité au SMUR et au bloc, eh bien on s'est dit, bah c'est bien les défibrillateurs, c'est un bel objet, mais si on sait pas s'en servir, si on sait pas où il se trouve, ça n'a aucun intérêt. La preuve, le taux de survie en France est toujours très très bas. Donc l'idée, c'est de se dire, ben, on va aller agir au plus près, les mairies, la cité, quoi, hein, là où se trouvent les citoyens. Et puis puisque la société, elle a comme client principal des maires, c'est aller de leur dire, ben voilà, on va vous proposer ces rencontres-là qui ne sont pas des formations, hein, ce sont des informations, des initiations, des sensibilisations, puisque on les invite à l'issue de ces rencontres d'aller se former auprès des pompiers, auprès de la Croix-Rouge, de la protection civile. Mais l'idée, c'est de faire un travail de fourmi en allant à la rencontre du citoyen, lui dire, bah voilà, c'est normal d'avoir peur, hein, c'est normal d'être stressé par rapport à ça, mais c'est surtout normal parce que vous savez pas comment faire. Donc bah nous, on met cette pierre à l'édifice.
Justement, vous venez de l'évoquer, on installe des défibrillateurs dans des lieux publics, dans des salles de sport, mais personne n'est formé. J'ai reçu avec Julien il y a quelque temps un entraîneur de football qui avait fait un arrêt cardiaque et qui a été sauvé par un sapeur-pompier. Donc dans mon émission, j'ai reçu ce sapeur-pompier qui lui proposait que chaque club de sport, football, basket, n'importe quoi, il y ait au moins un bénévole qui soit formé aux gestes de premier secours. Sinon, le club ne pourrait pas participer aux compétitions. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est une bonne idée. J'ai envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que l'ambition de l'association, c'est que l'ensemble de la société soit formée. Parce que peut-être le défaut qu'on a, c'est qu'on remet toujours à l'autre. Mais demain, alors bon, cette idée sur les clubs de sport, oui, c'est une bonne idée. Mais j'ai envie de dire, j'informerai l'ensemble des adhérents du club de sport à, ça prend pas de temps, hein, vous avez quelqu'un qui tombe devant vous, qu'est-ce que vous faites ? Bah surtout, vous faites quelque chose. Parce que le problème, c'est que moi, je ne sais pas quoi faire. Hein. Donc, je vais perdre du temps.
Oui, mais vous savez qu'on peut faire de mauvais gestes.
C'est-à-dire
si on n'a pas la formation, faire un massage cardiaque.
La fameuse côte cassée du massage cardiaque.
Alors, voilà. C'est pour ça que je vous demande quel mauvais geste. On va peut-être casser ce mythe. Il n'y a pas pire que de ne rien faire. Vous massez pas, vous savez pas masser, massez quand même. Vous allez, première chose que vous allez faire, vous allez alerter et masser. Si vous alertez le 15, le 18, le 17, enfin les numéros d'urgence, on va vous dire masser. Masser. Vous allez vous dire, je sais pas, c'est pas grave, masser. Vous avez 3 minutes pour agir. Donc on sauve des gens sauvent d'autres citoyens, ils ne savaient pas masser.
Je comprends ce que vous dites, mais si moi je masse, je sais où je vais poser mes mains. Par contre, si n'importe qui n'a pas fait cette formation, vous lui dites faites un massage cardiaque, il va vous mettre les mains sur le côté gauche.
Oui, mais ça sera toujours plus efficace que de ne rien faire.
Okay.
Vraiment, c'est important, je le dis. Alors, moi, je suis infirmière anesthésiste, uh-huh. C'est un geste que je pratique très, très régulièrement. C'est de ne rien faire. Un massage cardiaque, on vous dit, vous mettez vos mains au milieu du thorax. Alors, on parle même de compression, hein, vous appuyez sur le thorax. Parce que parfois, au téléphone, on dit masser. Il y a des gens qui massent, comme on ferait un massage de détente.
D'où l'intérêt de la formation.
Oui, alors, bien sûr, se former, c'est l'essentiel. Mais informer les gens en disant, voilà, surtout, faites quelque chose. Soyez acteur, c'est déjà un premier pas. La formation, c'est le petit plus. Mais vous n'allez pas apprendre beaucoup de choses de plus. Hein. On va vous juste vous montrer très précisément, puis vous allez vous exercer sur des
mannequins.
Sur des mannequins. Voilà. Et donc,
on ne peut pas tous avoir un collègue qui fait une crise cardiaque.
Alors, heureusement pour vous, peut-être que vous n'aurez jamais à le faire.
Oui, Thierry. Excusez-moi, dans une entreprise précédente où je travaillais, il était obligatoire, alors c'était la direction qui avait imposé ça, il était obligatoire que 10% du personnel soit formé aux gestes de premier secours. Absolument. Pourquoi ça ne s'est pas étendu?
Alors, en France, c'est ce que vous appelez la formation SST, hein, Secours, Sécurité du Travail.
Au travail.
Plus de 20 salariés, c'est une obligation légale. Voilà, donc ça logiquement, c'est une obligation.
Est-ce appliqué?
Ça doit l'être, parce que s'ils sont...
Concrètement, est-ce appliqué?
J'ai pas les chiffres, je vois de plus en plus d'entreprises qui sont soucieux quand même du bien-être au travail, parce que ça fait partie aussi de la réputation. Malheureusement, je pense que, il n'y a pas de caractère obligatoire, par exemple, à mettre un défibrillateur dans une entreprise. Par contre, la loi dit, vous devez mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité de vos salariés. Bon, dès lors que vous avez des employés depuis 50 ans, c'est bien d'avoir un défibrillateur. Mais la loi, pour l'instant, ne l'a pas exigé. Bon, on tend vers.
On parle en tout cas de formation. Alors Thierry, prenez l'exemple des clubs de sport. La formation à l'école, c'est quelque chose qui se fait déjà, c'est quelque chose pour lequel vous militez, parce que on imagine bien qu'on n'apprend pas la même chose quand on est collégien ou lycéen que quand on est à l'école primaire, et pourtant on a eu plus d'un exemple dans l'actualité récente de très jeunes enfants qui ont sauvé leurs parents d'un accident cardiaque parce qu'ils ont eu le réflexe d'appeler les pompiers et d'expliquer avec leurs mots à eux. Oui. Alors est-ce que cette formation se fait déjà en milieu scolaire?
Alors oui, elle se fait, puis elle se défait. Le problème, c'est qu'en milieu scolaire, d'après ce que moi je sais, c'est que on remet ça parfois souvent aux professeurs, aux instituteurs, mais qui eux-mêmes doivent être formés pour prodiguer cette formation. Donc il y a aussi un déficit parce que parfois il n'y a pas de prof pour le faire. C'est un vrai souci en France. Ça n'est pas institutionnalisé de manière pérenne. C'est très inégal. Il y a en troisième, on sait qu'ils vont passer le PSC1. Voilà. Bon, mais tous les collégiens ne l'ont pas fait. Et puis c'est pas suffisant une fois.
Dans les pays voisins, qu'est-ce qui fonctionne de ce fait, si on veut combler notre retard? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Est-ce que vous avez un exemple?
Les chiffres. Il y a 40 000 Français formés aux gestes de secours. En Allemagne, 80 000. On n'est pas assez de Français formés. Ce n'est pas une cause nationale, en fait. C'est dommage, parce que quand je vais prendre le parallèle avec les accidentés de la route, il y a plusieurs années, on s'est dit, il y a plus de 10 000 morts sur les routes, c'est une catastrophe, il faut qu'on fasse quelque chose. Aujourd'hui, on est à 3 000 morts. Parce qu'il y a vraiment eu une prise en compte de l'État, hein, de l'organisation, qui a mis en œuvre des campagnes, des radars, enfin tout ce qu'on sait. Mais aujourd'hui, les faits est 3 000 morts. Très bien. 50 000 morts d'arrêt cardiaque. Il n'y a rien de fait concrètement. La Croix-Rouge, oui, la protection civile, l'associatif, toujours. Mais il n'y a pas de cause nationale. Vous n'entendez jamais parler, il n'y a pas de spot. Alors que c'est le meilleur moyen de remettre de la citoyenneté au cœur de la cité. pourquoi remettons des légions d'honneur à des gens qui ne le méritent certainement pas? Enfin, moi, souvent, je me dis pourquoi. Mais un citoyen sauveteur, un citoyen qui a eu les bons gestes, qui n'était pas forcément formé. Pardon.
Dans le meilleur des cas, on lui remet la médaille de la ville.
C'est bien, mais je pense qu'on pourrait être encore plus symbolique de dire voilà, ça, vous êtes devenu un héros. Parce que quelque part, on est tous en lien ensemble là. Je veux dire, quelqu'un qui tombe devant vous, vous pouvez concrètement lui sauver la vie. Vous n'avez pas beaucoup de minutes, c'est vrai, mais vous pouvez lui sauver la vie. C'est beau. Hein. On a l'exemple de cette jeune femme d'une vingtaine d'années à Paris, du côté de Creil, qui a été découverte à 6h du matin et qui a fait l'arrêt devant témoin. C'est important, ça veut dire qu'elle a été massée tout de suite. Elle était en hypothermie. Bon. Les secours sont arrivés, on la massait. Ils l'ont massée pendant 4 heures, avec une machine qui a pris le relais, évidemment. Et puis 4 heures après, elle s'est réveillée, parce qu'elle a retrouvé sa température corporelle, et elle a été sauvée sans séquelles. Et j'ai bon nombre d'exemples de gens qu'on sauve dans le train, dans le... Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit « Ah, oui, je sais, on m'a dit que... » Pas forcément formé, mais il faut que je fasse quelque chose. Et c'est vraiment ça, vers quoi il faut tendre. Agir, être acteur, et de pas... Il n'y a pas pire d'être passif et de se dire « Mince, oh, j'ai rien fait. » Vous voyez, la culpabilité, j'aurais peut-être pu faire, mais je ne savais pas.
Quel levier avez-vous pour impliquer les gens à se former, à agir quand on est dans un monde qui s'individualise de plus en plus? Parfois, on voit quelqu'un qui est par terre, on ne cherche pas à savoir ce qu'il a, on passe à côté en pensant que, et vous avez des exemples, hein, en pensant que c'est juste quelqu'un qui est complètement bourré et qui est, il se repose, mais peut-être qu'il est en train de faire un malaise. J'ai en mémoire un ami qui est atteint d'une maladie et qui de temps en temps fait des malaises, on s'est dit bah tiens il a encore bu quoi. Comment, quel levier avez-vous pour inciter les gens à prendre conscience que il faut se former?
Le levier, c'est vraiment l'objet de cette association, c'est de se dire il faut déjà en parler, il faut que ça soit un sujet. Et c'est vraiment cette idée de démystifier. Ce n'est pas le rôle uniquement des services de secours, c'est le rôle de chacun d'entre nous. Donc cette idée aussi qu'on a eue, c'est de dire, les rencontres, c'est bien, les rencontres publiques, mais pour les faire venir, les gens, il faut leur proposer un moment un peu divertissant, une pièce de théâtre. Alors on l'a fait, une pièce de théâtre drôle, touchante, donc qui amène les gens à sortir leur domicile, à aller se divertir, parce qu'on peut aussi parler des gestes de secours sans que ça soit... Parce que c'est pas très sexy, hein. C'est vrai que les gens...
Oui, c'est pas la journée la plus plaisante.
C'est pas plaisant, parce qu'on parle quand même de mort. C'est quand même la mort. L'arrêt cardiaque, quand les gens tant que... Donc, les faire venir par une pièce de théâtre, où nous, on tend aussi maintenant à se greffer sur des temps communaux, où, on va dire, il y a des événements de communes, où nous, on va venir se greffer, comme le fait la Croix-Rouge, la Protection civile, finalement, d'aller s'immiscer le plus possible, d'en parler le plus possible, Je ne vois pas quel autre levier, parce que, oui, en effet, je suis d'accord avec vous, je fais aussi des formations aux gestes qui sauvent, auprès des soignants et aussi en entreprise. Oui, en effet, on voit quelqu'un dans la rue, on peut est-ce qu'on va y aller? C'est pas évident, dans le monde dans lequel on est, j'ai pas un vrai levier. Par contre, si on en parle beaucoup, si ça devient un sujet, s'il y a des campagnes d'affichage, s'il y a des spots télé, des spots radio... Ça sera quand même dans le coin de la tête. Se dire, quand même, je vais aller voir déjà s'il respire, s'il me répond, et j'appelle. Et là, si vous avez quelqu'un au bout du fil qui dit, écoutez, s'il ne respire pas, massez, vous allez le faire. Vous allez être, vous allez être rapidement plus seul. Et il y a une chaîne de survie qui va se mettre en place. En fait, c'est ça, le premier témoin, c'est le premier maillon de la chaîne.
Merci Christelle Baldé. En 30 secondes, qu'est-ce que vous attendez de ce sommet citoyen à Lille?
J'attends, c'est pas la première fois que j'y participe, j'attends en effet que plus de citoyens que la citoyenneté soit mise au cœur des débats, parce que nous faisons partie du maillon de la chaîne de la citoyenneté, si je puis me permettre, et j'en attends beaucoup de succès, parce que ça le mérite, c'est une belle organisation.
Merci beaucoup Christelle Baldé d'Urgence Secours Citoyen d'avoir été notre invitée ce matin sur les antennes des radios associatives en Hauts-de-France. Le sommet citoyen du G500, ça se passe à Lille et c'est à vivre en direct sur vos radios associatives en Hauts-de-France. Et nous recevons à présent l'un des grands témoins de ce sommet du G500. Il était d'ailleurs déjà présent hier pour réagir à une table ronde sur l'eau. On va parler de cette table ronde. J'ai le plaisir d'accueillir Abdoulaye Sène. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du Partenariat mondial de l'eau pour l'Afrique de l'Ouest, secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau, et vous êtes également coprésident fondateur du think tank e-Dialogos. On a parlé très brièvement de ce think tank avec Annie Lévy-Mosic-Konatsi tout à l'heure. Je vous invite, s'il vous plaît, à nous présenter e-Dialogos.
C'est une belle initiative que nous voulons très ouverte et orienté vers la promotion du dialogue entre citoyens, institutions, toutes les parties prenantes, puisque nous sommes convaincus que dans un monde fragmenté, cloisonné, avec des conflits qui se multiplient et qui s'entrecroisent, il faut du dialogue, il faut de la connexion, il faut de la coopération, pour ensemble trouver des solutions qui nous permettent, en tout cas, de retrouver des solutions humaines pour l'humanité.
Vous avez été grand témoin hier d'une table ronde autour de l'eau, intitulée « L'eau, bien public mondial ou arme de dissuasion ». Qu'est-ce que vous retenez des échanges que vous avez pu avoir avec les différents invités et le public présent ?
Alors, c'était une très belle opportunité qui nous était offerte d'échanger sur une ressource qui est la plus vitale pour l'humanité, mais qui aujourd'hui est menacée par les choix de l'homme, que ce soit en lien avec la croissance démographique, l'urbanisation désordonnée, que ce soit en lien avec l'utilisation inefficace de l'eau dans l'agriculture, dans d'autres domaines. Et nous avons considéré que dans un contexte de réchauffement climatique, il fallait prêter beaucoup plus d'attention à cette ressource qui se raréfie et qui va poser dans les prochaines années des situations extrêmement difficiles dans certaines contrées du monde. Ce que nous avons compris, c'est qu'il y a une bonne prise de conscience des enjeux et de l'urgence d'agir. Nous avons également retenu que les citoyens ont compris le rôle qui est le leur. Le rôle qui est le leur dans tout ce qui concerne l'engagement citoyen, les éco-gestes, les économies, l'optimisation et surtout la sobriété dans l'utilisation de l'eau. Mais nous avons également compris qu'il y avait une pleine conscience des aspects belligérants de l'eau, que ce soit au niveau des conflits locaux, conflits d'usage entre rural, urbain, entre agriculteurs, éleveurs et même data center aujourd'hui. Et nous avons compris que, oui, au-delà des conflits locaux, l'eau pouvait aussi être une sorte d'étincelle pour les grands conflits internationaux. Nous avons évoqué des cas, que ce soit en Inde avec la vallée de l'Indus dont le traité a été suspendu. Nous connaissons les risques qu'il y a sur le Nil. Nous savons également que l'eau est souvent utilisée comme arme de siège. Le cas le plus patent reste celui aujourd'hui de Gaza où les populations sont privées d'eau, les infrastructures sont détruites, alors que il y a un droit international qui protège l'accès à l'eau, qui protège également les infrastructures hydrauliques et qui dit globalement que l'eau est un droit fondamental pour l'homme et que les gouvernements, les collectivités territoriales doivent s'organiser pour assurer un accès à l'eau pour toutes les populations, que l'eau n'est pas à privatiser, que l'eau n'est pas à accaparer. Donc autant de sujets sur lesquels on a donc discuté. Et enfin, on a fait le lien entre l'eau et les grands agendas que sont le climat, comme je l'ai évoqué, mais aussi l'alimentation, l'agriculture, et également aujourd'hui la révolution numérique. Donc oui, que l'eau transcende tout cela interconnecte tout ça et doit maintenant faire l'objet, en tout cas, d'une attention beaucoup plus soutenue pour que le bien-être des populations soit assuré, pour que l'alimentation avec une agriculture bien pensée, efficace, soit réussie et que nous évitions les conflits internationaux à travers la coopération et la solidarité.
Je précise juste une chose, une personne sur trois n'a pas accès à une eau potable, salubre et abordable.
C'est tout à fait vrai. Vous avez parfaitement résumé la situation de l'eau dans le monde. On pourrait rajouter aussi le plateau du Golan qui a été annexé par Israël. On pourrait aussi rajouter les barrages que la Turquie a construit pour limiter le débit pour la Syrie et le Kurdistan.
Tout à fait.
Vous venez d'un continent, l'Afrique, où il y a déjà des conflits, notamment au Kenya, partout dans l'Afrique australe, entre les cueilleurs, vous l'avez dit, entre les cueilleurs et les éleveurs. Aussi au Kenya, entre les éleveurs et les producteurs de roses sous serre, etc. On pourrait en faire un catalogue. Chez nous, ici, en Europe, en France, en tout cas, il suffit d'ouvrir le robinet et d'avoir de l'eau à tout instant. Alors comment on peut faire prendre conscience que cette ressource, où il ne reste que 7% d'eau potable dans le monde, soit l'équivalent du lac Baïkal, 7% pour une population mondiale qui s'accroît d'année en année à une vitesse vertigineuse, comment faire prendre conscience à nous, Européens, que cette ressource, qui peut-être sera un jour plus chère que le pétrole, on doit la préserver?
Alors, c'est une question centrale et hier, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui habite le Luxembourg, qui me dit que le problème de l'eau n'est pas un problème pour lui et qu'il ne comprend pas que cela puisse constituer un sujet. Et cela conforte absolument l'analyse et le constat que vous venez de faire. La réponse que j'ai eu à donner est celle-ci. Nous sommes dans un monde connecté. Nous parlons de l'humanité. Et nous ne parlons pas de population cloisonnée, mais d'une humanité. Et il est tout à fait concevable que dans ce contexte où le monde bouge et évolue, qu'on se préoccupe des conséquences que les pénuries d'eau dans certaines zones peuvent avoir sur d'autres zones. Que ce soit les déplacements de population, parce que quand les populations n'ont plus d'eau, elles ne peuvent pas rester parce que sans l'eau, on ne peut pas vivre. Que ce soit parce que il y a pas d'eau et il y a plus d'agriculture, donc il y a plus de nourriture, les populations vont bouger. On a parlé quand même de la migration climatique. On a parlé aussi de cette préoccupation liée aux catastrophes hydriques. On le sait, de plus en plus, on a des sécheresses. De plus en plus, on a des inondations violentes. Et on commence un petit peu à avoir les leviers pour mettre dans les esprits le lien qu'il y a entre l'eau, le climat, l'eau et certaines catastrophes et les conséquences que ça peut avoir. Et aujourd'hui, dans certains pays européens, Espagne, peut-être Portugal, on commence aussi à voir les conséquences.
En France aussi.
Oui, légèrement, mais ça va venir probablement, comme vous l'avez annoncé, un peu dans le sud. On constate que oui, l'eau est en train de se raréfier, ces territoires sont en train de s'assoiffer et que tout cela maintenant doit nécessiter des actions en prévention et en anticipation. Et je pense qu'il vaut mieux, comme on dit, prévoir, anticiper, que d'attendre que certains phénomènes arrivent pour pouvoir s'organiser. Je pense que c'est ça aussi la raison de toutes les approches de résilience.
L'association Oxfam a sorti un rapport l'an dernier, La soif du profit. Et il y a un chiffre qui me saute aux yeux dans ce rapport. On explique qu'à l'échelle mondiale, l'industrie et l'agriculture représentent près de 90% de la consommation totale d'eau. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par là ?
Oui, oui, vous avez raison. Et je pense que dans le prolongement de la question précédente, c'est là où, effectivement, il faut avoir une approche holistique. Quand on dit qu'il faut un accès universel, il est évident que ceux qui consomment le plus d'eau, surtout pour produire des profits, devraient contribuer à la mise en œuvre de ce droit humain, hein, qui est un droit humain qui En réalité, c'est imposé à nous tous. Quand on parle des objectifs de développement durable, on se dit oui, c'est des objectifs de développement durable qui s'imposent à tout le monde. Pourquoi aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, on ne pourrait pas imposer des taxes sur des quantités d'eau qui sont produites dans les bouteilles, des quantités d'eau qui sont consommées par les data centers, des quantités d'eau qui sont consommées par d'autres industries que vous avez évoquées, et organiser ainsi une sorte de fond bleu, de fond de l'eau, qui nous permettait véritablement de mettre en œuvre ce droit humain à l'eau qui nous appartient à nous tous, de mettre en œuvre à l'échelle planétaire.
Est-ce qu'il est encore possible d'agir ou est-ce qu'il est trop tard? Quand on sait que le lac Tchad, par exemple, a perdu 80% de sa surface, quand on sait que les neiges du Kilimandjaro ont